Alors, j'ai intitulé cet échange « Le savoir et le croire ». Donc, je vous propose de parler environ une heure, au moins peut-être, et peut-être vous noter au fur et à mesure les questions que vous aimeriez approfondir dans l'échange qui suivra. D'une certaine manière, je préfère un exposé cursif, suivi de questions plutôt que l'interrompre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi, vous ai proposé ce thème et vous avez la gentillesse de l'accepter? Parce que je crois que c'est un questionnement qui traverse en profondeur nos sociétés développées, celles que je connais mieux que les autres, et que, au fond, la préoccupation de la foi se trouve sans arrêt confronté à cette ligne de crête, en quelque sorte, entre le savoir et le croire. Donc, quand j'ai résumé l'annonce de cette intervention, au fond, j'ai énoncé quelques points que je reprends en introduction. Hein. Le savoir, et le savoir, c'est la science, hein, on va y revenir, hein, c'est mon métier, hein, recherche l'objectivité, il veut être non seulement partagé et partageable, mais accepté par tous. Le croire, au contraire, est à l'œuvre dans chaque existence, il est évidemment omniprésent dans les vies individuelles, mais aussi collectives. Lui aussi, il donne sens, et lui aussi, comme la recherche du savoir, il guide l'action. Et tout le questionnement que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la compatibilité ou l'incompatibilité entre ces deux approches de la réalité. Le savoir ou la science sont vite suspectés d'une domination abusive, de scientisme, et mouronisme pour mouronisme, la croyance est vite, elle, accusée d'obscurantisme. Et nous retrouvons dans des questions contemporaines vives de nos sociétés, qu'il s'agisse de la laïcité dans l'éducation ou dans la société, qu'il s'agisse des lois de bioéthique, assez rapidement ces tensions qui sont des tensions au fond de la vie même de l'esprit. Donc ce que je voudrais essayer de faire, c'est de clarifier un petit peu ce débat, en montrant, à mon avis, et je parle évidemment à titre personnel ici, hein, que la tension existe, qu'elle est marquée d'une pesanteur historique très lourde, hein, mais qu'en même temps, elle est intéressante à vivre, mais pas forcément très simple. Alors, je vais commencer par, au fond, donc, deux parties, savoir, croire, hein, et puis dans chacune d'entre elles, l'interaction. Le savoir, on peut lui donner plusieurs noms, on peut l'appeler la raison, la rationalité, la science. Hein. Si je prends la définition du dictionnaire de l'Académie, la raison, cette capacité qu'a l'homme d'ordonner ses pensées de façon universelle et nécessaire, d'associer des notions ou des faits de manière à en tirer des concepts, des démonstrations, des preuves. Et tous les mots sont importants dans cette définition. Hein. Les pensées qui, elles, volent et viennent, hein, mais l'idée de les ordonner, le mot suivant, universel, donc la prétention à l'universalité, donc au partage et à la reconnaissance mutuelle universelle, est nécessaire, donc l'impossibilité d'échapper aux conséquences dans cette construction qui rassemble des notions, des faits, d'expérience ou d'observation, de vie, de manière à en tirer des concepts, première étape, des démonstrations, étape plus forte, ou des preuves, étape contraignante pour l'intelligence. Et toute notre société est occidentale est construite sur cet héritage qui nous vient des Grecs, des pré-socratiques, hein, le logos. Le logos, érigé contre les mythes, contre les croyances. Un texte très beau. Je vous donne une référence qui se trouvait, par le plus grand des hasards, une réponse partielle à nos questions aujourd'hui. C'est la séance de rentrée de l'Institut de France. Donc les 5 académies, la française, les sciences morales et politiques, etc. Et la règle du jeu est que pour cette belle séance de rentrée, sous la coupole, les 5 académies se mettent d'accord sur un mot, un seul. Et que ce mot va donner lieu à 5 exposés, choisis par chacune des académies, qui ne sont pas concertés, qui sont donc indépendants, et dont seule la durée de 15 minutes est fixée. Alors on a vu passer, dans les années écoulées, toutes sortes de mots intéressants, mais cette année, le mot était « irrationnel ». Irrationnel, on est bien au cœur de la problématique entre savoir et croire. Et donc, si vous êtes intéressé, je recommanderais assez volontiers de lire ces exposés. Vous googlisez simplement « Institut de France »,« irrationnel », et rentrer éventuellement, mais ça suffit, vous tombez sur les textes, il y a un PDF, on peut le charger, etc. Et dans le premier exposé, qui a été présenté par Chantal Delsol, elle cite Parménide, pré-socratique, hein, et la prière de Parménide, telle que Nietzsche la rapporte, hein, « Accordez-moi une seule certitude, ô Dieu, pluriel, fût-ce une simple planche sur la mer de l'incertitude, juste assez large pour dormir. Gardez pour vous tout ce qui est en devenir. » Le devenir, c'est l'incertain, par définition. Les formes diaprées, les fleurs, trompeuses, charmantes, vivantes, et ne me donnez que la seule, la pauvre certitude toute vide, c'est le vide de la raison. C'est-à-dire un savoir glacial en quelque sorte. Alors, explorons quand même, là je parle de mon métier, hein, de cet édifice de la science, absolument magnifique, hein, érigé progressivement depuis des siècles, est construit sur la raison. C'est un édifice qui a établi, je ne parle pas ici de telle ou telle discipline, hein, mais établi un processus de recherche de la vérité, avec un petit V, car il ne la prétend jamais posséder totalement, qui conjugue observation, expérience, raisonnement, hypothèse, mesure, qui devient capable de prédiction, qui construit un modèle du monde. Alors ce modèle peut être le monde dans son ensemble, c'est ce qu'on appellera la cosmologie, ça peut être notre monde terrestre, ce sera la science de la Terre, et par exemple la science du climat ou l'histoire de la Terre, ça peut être un modèle de la matière à l'échelle microscopique, et ce sera lois de la mécanique qui régissent cette matière à cette échelle et qui sont si différentes de la mécanique dont nous avons l'habitude avec les boules que l'on lance. Et c'est cet ensemble de méthodologies qui progressivement construit sur le réel qui nous demeure inaccessible. Vous connaissez peut-être la belle formule de Bernard d'Espagnat, le réel voilé. On passe son temps à enlever les voiles, mais derrière, il y a toujours le réel voilé, que l'on dévoile avec ses régularités, ses lois universelles, ses arbitraires, en quelque sorte, stables, qu'on appelle les constantes de la physique, hein, de corps s'attire avec une caractéristique qui nous est donnée par aucune équation, simplement par la mesure, qu'on appelle la constante de Newton, force de gravitation, d'où sort-elle? Elle est là, point. Elle est là depuis le commencement du monde. et elle semble être la même absolument partout dans l'univers. Donc, c'est ce dévoilement à laquelle la science s'occupe. Évidemment, sa lecture est de plus en plus fine. Et il y a un exemple que j'aime bien parce qu'il nous montre à quel point la finesse aujourd'hui peut être proche, mais seulement proche, de ce réel inaccessible. Quand on calcule avec les outils de la mécanique quantique la fréquence de tel mouvement, transition atomique, on peut prévoir le résultat de l'expérience avec 18 décimales. Donc ça représente une précision du milliardième de milliardième. Ça veut dire que quand on fait le calcul, sans savoir le résultat, on va trouver une valeur, et ensuite, en faisant l'expérience, l'expérience va dire votre valeur est juste au milliardième de milliardième. Et donc une sorte d'adhésion assez mystérieuse, mais extrêmement profonde, entre ce travail de dévoilement et la réalité des choses qui sont derrière. Cette exploration prend du temps. Rappelons-nous par exemple que c'est en novembre 1915 qu'Albert Einstein présente à l'Académie de Prusse la relativité générale, la généralisation de sa relativité restreinte publiée 10 ans plus tôt, et que parmi les conséquences presque évidentes de l'équation Carnot-Lacune, qui veut décrire l'univers en présence de matière, il y a des ondes gravitationnelles, la gravitation se propageant sous forme d'ondes. Il faut attendre très exactement un siècle pour que ces ondes soient enfin observées. Vous avez lu ça dans la presse. Alors, pour faire ce processus de dévoilement, la science se construit avec des modalités qui, sur les mêmes principes que je viens d'énoncer, vont différer selon l'objet d'étude. On ne va pas étudier une cellule avec un télescope, ni une galaxie avec un microscope. Dimension de l'objet, sa complexité, va appeler des approches mathématiques différentes. Il est merveilleusement simple de décrire mathématiquement le mouvement d'un pendule que j'ai suspendu au plafond avec une équation simple qu'on peut faire traiter à des élèves de terminale. En revanche, décrire le fonctionnement de l'univers à grande échelle avec l'équation d'Einstein et beaucoup faire appel à un outillage mathématique plus compliqué. Et puis cet outillage peut se complexifier encore au point que dans un grand nombre de cas, par exemple représenter les propriétés d'une molécule qui a plus de 100 000 atomes, telles que les molécules que l'on utilise en pharmacologie par exemple, n'est plus possible par le calcul analytique, mais demande des simulations numériques que nous permet l'informatique. Donc, le processus est indiscutablement d'une extraordinaire fécondité. Et c'est cette fécondité qui explique son développement étonnant, en particulier, depuis un siècle ou deux. Ce processus, quelle est la place des mythes par rapport à ce processus ? On peut le discuter. Dans la vision du Logos, de Démocrite et de ses successeurs en grec, la raison avait pris la place des mythes. Toutes ces histoires qu'on racontait sur la naissance du monde, tout cet arsenal de dieux et de forces mystérieuses étaient éliminées pour laisser la place à cette raison qui est dans la prière de Parménide. Mais on peut aussi penser, et ce serait plutôt mon sentiment, et évidemment, j'évoquerai plusieurs fois ici Paul Ricoeur, l'habitant de Châtenay, parmi les plus célèbres. Pour Ricoeur, il a un très beau passage sur les mythes dans lequel il dit plutôt que les mythes sont vraiment le début de la science. C'est-à-dire, on observe le monde, il y a des orages, des éclairs, et puis on cherche une explication. Ces explications, il leur manque une seule chose, donc elles font appel à l'intuition, éventuellement, elles font appel à l'imagination, il leur manque qu'une chose, c'est la sanction de l'expérience et du raisonnement. Et en ce sens-là, le mythe va se développer d'une façon erratique. Parfois, néanmoins, cette articulation entre l'intuition et l'imagination dit quelque chose sans être capable de le prouver du tout. Et l'exemple le plus célèbre que l'on donne de ça, évidemment, c'est encore chez Démocrite, la conception de la matière sous forme de particules indivisibles qu'il nomme, c'est le sens exact du terme en grec, atome, qu'on ne peut pas couper. Bon, il n'aura fallu qu'attendre 1911 et Jean Perrin, ce fut une 25 siècles, pour qu'on puisse constater que les atomes existent vraiment. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment cette intuition, qui met en jeu des représentations de la réalité, peut marquer ce qui suit. Démocrite aurait très bien pu se tromper. Et on aurait mis un certain temps à démontrer que les atomes n'existaient pas, comme d'ailleurs c'était la conviction du grand chimiste Marcelin Berthelot à la fin du XIXe siècle. On parlait d'ailleurs, quand j'étais au lycée encore, de l'hypothèse atomique, 50 ans après que Jean Perrin ait tout fourni la preuve indiscutable de l'existence des atomes. Ces représentations jouent un rôle tout à fait important dans notre perception de la science, parce qu'elles font bouger très fortement notre vision du monde. Pour nous représenter le monde, il est fait d'objets, il est constitué d'un espace, le temps s'y écoule, et donc l'enfant a des représentations spontanées de tout cela, et puis celles que l'adulte voit grandir sont, en général, un héritage plus ou moins direct de la science connue à son époque. Mais, par exemple, nous avons, en gros, tous le sentiment que le temps est une grandeur absolue, qui s'écoule uniformément pour tout le monde. Nous n'avons pas du tout l'intuition d'un temps élastique, variable, suivant notre position dans l'espace et notre mouvement. Or, pourtant, c'est bien la nature du temps telle que l'a révélée la relativité. Et simplement, cette représentation du temps est trop lointaine de notre expérience sensible pour qu'il y ait un intérêt à la modifier. En revanche, lorsqu'il s'agit du mouvement des satellites qui nous donnent les positions GPS, si on ne tenait pas compte de cette valeur du temps, ce temps élastique, alors on n'aurait pas du tout la précision de nos GPS actuels. Et dans d'autres circonstances, les représentations que la science propose sont beaucoup plus largement partagées. Et il faudrait évoquer ici toute la représentation du corps humain, de la procréation que la science nous apporte et qui fait bouger beaucoup les représentations individuelles. Mais j'y reviendrai. Ricoeur, toujours lui, a bien défini cet espace de la science en essayant de le cerné par rapport à l'espace de l'éthique et du croire, je vais y revenir. Et il a un propos qui est très fort finalement, dans lequel il dit il faut tenter d'appréhender dans l'unité de son projet l'aventure intellectuelle et spirituelle que constitue la science. C'est pas du tout, il ne juge pas du tout la science comme une entreprise matérialiste et un peu vide à la manière de pour être tiré de ce que disait Parménide. C'est un acte fondateur, instaurateur, qui est le projet même de l'épistémé, connaissance comme forme de vérité. Il appartient à l'idée d'événement de pensée de créer de l'irréversible. Après, on ne pense pas comme avant. On ne peut pas dire mieux que l'après d'un chemin scientifique modifie la façon même que nous avons de penser. Et La Vrière, le philosophe belge qui a beaucoup commenté le cœur, poursuit en disant un énoncé un peu paradoxal, mais qui est assez profond, à mon avis, une démarche qui trace son chemin au fur et à mesure qu'elle s'y avance, évidemment en explorant l'inconnu. Donc il y a une sorte de reconnaissance très fondamentale de ce projet instaurateur qu'est la science, aventure intellectuelle et spirituelle. Rien ne lui est interdit, rien sauf ce sur quoi elle enfreindrait l'autre versant, celui de l'éthique, celui du croire. Mais sinon, encore une fois, rien ne lui est interdit et après, on ne pense pas comme avant. Et nous le voyons tous les jours dans les débats qui peuvent intervenir sur ce point. Est-ce que ce processus est vierge de toute interférence avec le croire, avec les représentations? J'aime bien un exemple que André Girard développe aussi dans ses livres, qui est très intéressant sur le plan historique. Il n'est pas le seul, mais il est emblématique. Il s'agit, au début du XXe siècle, de la conception même de l'univers, ce qu'on appelle la cosmologie. Albert Einstein écrit des équations très fondamentales pour décrire l'univers à grande échelle, avec un contenu de matière, s'attire, et les équations ont plusieurs solutions suivant la valeur des paramètres que l'on y introduit. Einstein privilégie absolument un univers statique, donc il n'a pas d'histoire, les choses ne changent pas. Les choses, par exemple, la distance entre les galaxies. Deux mathématiciens intéressés par la cosmologie, l'abbé Georges Lemaître à Louvain et Friedman, un russe, explore les mêmes équations, mais sans les contraindre de point de vue a priori. Si ces équations décrivent la réalité du monde, alors qu'est-ce qu'elles nous disent? Et en les laissant fonctionner, elles nous disent l'univers peut être en expansion. Il existe une solution dans laquelle l'univers est en expansion. Et en 1927, Georges Lemaître, qui ignorait les travaux de Friedman, et réciproquement, publie un article fondamental dans lequel il donne la valeur de l'expansion de l'univers. Cet article passe relativement inaperçu, en particulier parce qu'il est écrit en français. Et en 1929, chacun ici sait que Edwin Hubble découvre l'expansion de l'univers en observant le mouvement mutuel d'éloignement des galaxies. Confirmation éclatante à la fois de la validité des équations qui le prédisaient et des calculs de Georges Lemaître. Eh bien, Albert Einstein va contester radicalement non pas les observations, mais le modèle. Observation pouvait être local et donc pas traduire les propriétés de l'univers à grande échelle, conteste le modèle en disant cette expansion des galaxies implique que dans le passé elles étaient moins distantes les unes des autres et dans un passé plus lointain encore plus rapproché et dans un passé antérieur elles formait ce que le maître appellera, mais quelques années plus tard, un atome primitif, et qu'aujourd'hui nous appelons l'état passé de l'univers, le Big Bang, etc. Et Einstein dit, vous, Georges Lemaître, vous dites ça parce que vous êtes croyant chrétien et vous voulez absolument que la cosmologie que vous nous proposez soit en accord avec la Bible, avec le Fiat Lux. Et Lemaître se défend en disant « Mais pas du tout, moi j'ai pris vos équations, je les fais tourner et elles montrent ce résultat. » Et elles le montrent en accord avec les observations de surcroît et sans aucune hypothèse additionnelle que votre propre calcul. Il a fallu plus de 2 ans pour qu'Einstein reconnaisse que oui, Lemaître avait raison. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point les représentations qui sont des biais que nous avons tous dans notre pensée sur le monde peuvent jouer dans ce cas extrême à contre-emploi. Einstein, un croyant, peut-être déiste, mais en tout cas pas du tout lié aux représentations de la Bible, avait une représentation a priori plus figée que celle de Lemaître, et il reproche à Lemaître, lui, d'être biaisé par sa représentation biblique. Donc c'est intéressant, mais nous sommes tous pris dans de tels processus, et une des grandes difficultés de cette ligne de crête entre savoir et croire va être de faire le partage entre nos représentations, héritage très profond, héritage de notre culture, héritage des visions dans lesquelles s'est construit le message religieux, et puis ce discours de la science qui, lui, ne souffre pas de discussion dans la mesure où il a satisfait au processus de validation qui en fait un élément de vérité. Néanmoins, les étapes du côté du savoir ne s'arrêtent pas là. Et j'en évoquerai simplement 2. La première, et là encore André Girard rejoint beaucoup d'autres scientifiques qui ont exprimé l'ouverture au mystère. J'emploie le mot mystère et non pas le mot transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ouverture au mystère? Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Jean Perrin et d'autres ont exprimé à leur manière ce sentiment de l'explorateur de l'inconnu, qu'ils ont été et ô combien immense, devant une sorte de cohérence intime à la réalité, de profonde structure que l'intelligence y décode, et de profonde, voulant aussi dire, inépuisable. Et ils sont, en quelque sorte, dans leur message, sidérés au sens fort du terme, par cette exploration et ce qu'elle révèle. Les formulations qu'il donne, vous pouvez les lire, André Girard en a recensé un certain nombre, elles sont très belles. Mais Einstein, par exemple, dit « Ce qui est le plus important pour un scientifique, c'est de garder le sens du mystère. » Une phrase extrêmement forte, il a dit à la fin de sa vie, hein. C'est-à-dire, alors il n'emploie pas le mot religieux, il n'emploie pas le mot transcendance. Un autre regard, porté également par un scientifique, peut-être pas de aussi haut de volée, mais qui, sur le plan philosophique, moi je le respecte beaucoup, qui est Roland Omnes, qui est un homme âgé aujourd'hui, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « La révélation des lois de la physique ». C'est un théoricien de la physique, qui a enseigné à Orsay pendant toute sa vie. Et Omnes fait un constat sur les lois. Oui, j'ai tout à l'heure évoqué les constantes de la nature. J'ai parlé de la constante de la gravitation, il y en a une dizaine d'autres. Ce sont des nombres qui ont une certaine valeur et qui se mesurent évidemment dans des unités différentes. Le plus familier sans doute que vous connaissiez, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde à peu près, qui est toujours et partout la même. Partout depuis le début du monde, pour autant qu'on puisse l'avoir évalué, mais avec beaucoup de précision, hein, et partout dans les milliards d'années-lumière qui représentent l'univers connu aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle cette valeur? Cette valeur ne sort d'aucune équation, d'aucun calcul. Elle est. Elle est et elle dure. Et de telles constantes, il y en a, je le répète, une dizaine. Ce sont elles qui structurent le monde. Hubert Reeve, dans son célèbre ouvrage qu'il a fait connaître, hein, « Patience dans l'azur », hein, développe une uchronie. Hein. Que serait l'histoire du monde si seulement la constante qui établit les niveaux d'énergie de l'atome de carbone, qui fait partie de cette dizaine, avait été un tout petit peu différente? Eh bien, on n'aurait pas de carbone, on n'aurait pas de molécules carbonées, on n'aurait pas de structure organique. Rien de tout ça ne pourrait exister et jamais les édifices complexes du vivant ne seraient produits. Alors, devant ça, on pourrait évidemment avoir, j'entrerai pas, peut-être si on y reviendra dans l'échange, si vous voulez, toutes ces positions d'intelligent design qui ne me paraissent pas extrêmement intéressantes, mais évidemment, certains diront, mais oui, tout ça c'était pensé à l'avance pour que ça marche. Bon, on peut discuter ce point. Mais je souligne simplement que Omnes, dans ce qu'il appelle la révélation des lois de la physique, où il souligne cette stabilité qui transcende le monde changeant. La réalité n'est que changement. La seule chose qui est stable dans le monde, c'est le changement, disait Héraclite, dans une formule un peu paradoxale. Dans cette réalité infiniment changeante, capable d'ailleurs d'apparition de nouveautés comme de vivants, hein, la seule stabilité, c'est celle-là. Hein, et elle transcende en quelque sorte le monde et la physique la révèle. La physique ou les autres sciences la révèlent. Ouverture au mystère. Alors après, elle peut être formulée par des expressions très belles. Hein. J'ai cité Omnes ou Heisenberg, Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Hein. C'est la même idée. Malraux, que André Girard cite beaucoup aussi, dans une phrase que je trouve très belle, hein. L'animal qui sait qu'il doit mourir, vous et moi, hein, arrache à l'ironie des nébuleuses, le champ des constellations. L'ironie des nébuleuses, c'est l'univers nous est totalement indifférent. Il est là, point. Et il n'y a pas de question à se poser. C'est un peu la vision de Jacques Monod, d'une certaine manière. Il est là, c'est le fruit du hasard. Et puis après, pas de question à se poser. Malraux dit non. Cet être qui doit mourir, il arrache à cette ironie, à cette indifférence, un champ, hein, qui a un sens évidemment, le champ des constellations. Et il met donc en contrepoint les nébuleuses qu'on voit sur les photographies et puis les constellations auxquelles évidemment les êtres humains donnent un nom mythologique d'ailleurs, mais peu importe. Hein. Tout cela ne parle pas de Dieu, hein, mais ouvre à partir de la science un horizon du mystère. Et puis, la science, et particulièrement aujourd'hui, ouvre à une confrontation majeure. Autant elle est préoccupée d'établir du général, de l'objectif, du partageable par tous, autant elle s'arrête, silencieuse, quand il s'agit de savoir ce que l'on fait avec ce qu'elle dit. Et c'est évidemment ici la rencontre de l'éthique, des choix. La science ne nous dit pas ce qui est bien et ce qui est mal de faire. Elle est silencieuse sur ce point. C'est d'ailleurs probablement ce que Jacques Monod a réalisé à la fin de sa vie en tentant de proposer, et André Girard l'analyse bien aussi dans son livre, en tentant de proposer une sorte d'éthique un peu glacée qui nous guide quand même sur le comportement à avoir. nous ne sommes pas encore dans le religieux, mais nous sommes déjà à la frontière du croire. Parce que ces choix à faire font appel à notre liberté et donc aux valeurs auxquelles elle se réfère pour vivre. Et je ne peux pas faire mieux, là encore, que de revenir à Ricoeur quand il, après avoir reconnu la profondeur de la valeur de cette exploration par la science de la vérité pour créer l'irréversible, après on ne pense plus comme avant, l'éthique est à la fois une province du politique concernant la pluralité humaine, on ne parle plus là nécessairement d'unanimité, mais aussi l'enveloppe commune de la morale privée et de la morale publique. Et s'il faut juger de l'éthique à l'aune d'un critère précis, il dit « l'idée de justice en constitue l'emblème par excellence ». Et il faut donc préparer la discussion, c'est ce que nous faisons en ce moment dans la réflexion sur les lois de bioéthique, portant sur les interférences, les chevauchements, les conflits de frontières et de compétences mettant en question le statut de l'homme et non pas des hommes. Donc ici, nous sommes bien dans le singulier du rapport avec ces représentations, ces vérités scientifiques, dans les choix personnels, politique, etc. Et il définit cet homme comme l'être du carrefour des pratiques. Donc voilà cet homme, vous, moi, qui nous trouvons à chaque moment au carrefour. Et le moment aujourd'hui est encore plus intense qu'il n'a pu l'être dans le passé, puisque la science, peu à peu, par ses applications, envahit tous les domaines de l'activité humaine, tous sans exception. Économie, procréation, communication, protection de la personne, début de la vie, fin de la vie, démographie, et j'en passe. Donc, nous sommes, chacun d'entre nous, au carrefour entre cette épistémée, cette quête d'un logos qui dise le vrai, et puis les choix à faire qui relèvent de l'éthique. Et je conclus avec la façon dont Ricoeur, que je trouve magnifique, définit ce carrefour. Il l'appelle un espace de perplexité. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite sur les choix à faire. Nous ne pouvons les faire qu'en ayant accepté que nos représentations aient bougé et en nous demandant ce qu'il est humain de faire. Espace de perplexité à explorer. Alors, venons-en au croire. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce qu'il existe un point d'équilibre dans cet espace? On peut l'espérer. Comme dit la sagesse populaire, on ne peut tout de même pas croire n'importe quoi. Mais alors que croire? Faut-il croire? Comment un scientifique peut-il être croyant? Puisque lui, il a un fil rouge, directeur, qui le conduit vers la vérité partageable, qu'on peut donc tous, à laquelle on peut tous adhérer. Il y a un célèbre tableau de Goya que vous connaissez, qui s'appelle « Le sommeil de la raison peut engendrer des monstres ». Alors, souvent, on a attribué au titre de ce tableau, choisi par Goya, hein, démonstration que dès qu'on n'était plus dans l'espace du savoir, du logos, hein, on engendrait des monstres. On peut aussi se rappeler qu'il a peint ce tableau pendant la terreur, immédiatement après, et que c'était le plaidoyer excessif pour l'omnipuissance de la raison qu'il avait amené à peindre un moment où trop de raison engendre des monstres. Je crois que c'est plutôt ça, la lecture. Je cite aussi Poincaré, qui nous montre bien toujours cette sorte de ligne de crête à trouver. On ne peut pas tout croire. Poincaré écrit dans La science et l'hypothèse, « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. » On retrouve la perplexité. Le croire serait-il exclusivement du côté de l'émotion, du sentiment, l'élément individuel par excellence? Faudrait-il suivre Georges Braque, hein, quand il dit « J'aime l'émotion qui corrige la règle, et j'aime la règle qui corrige l'émotion. » À nouveau l'idée qu'il y aurait un espèce de chemin intermédiaire. Bon, il nous faut bien observer que toutes nos vies sont tissées de croire. Certains de mes collègues qui assimilent rapidement croyance et obscurantisme mettent en avant les principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Mais aucun de ces trois principes ne découle de la mécanique quantique ou de la relativité générale, qui sont les deux piliers de la science contemporaine, non plus que de l'évolution de Darwin. Donc, ce sont des croyances qui fédèrent notre nation française et auxquelles nous adhérons parce que nous y croyons. Et c'est cette croyance, plus ou moins solide, qui nous amène à poser des actes, à faire des choix et à discuter de tel ou tel paragraphe de la loi sur la bioéthique, par exemple. Alors, ce « je crois » qui est donc affiché sur le fronton de nos mairies, il est aussi permanent dans nos existences. Toutes les affirmations de la vie courante, ce tissu de la vie que fait le croire, je crois qu'elle m'aime, je crois en mes capacités, je crois les promesses du futur président et je vote pour lui, etc., etc. Et finalement, dans ce « je crois », qu'est-ce que nous voyons surgir, me semble-t-il? Nous voyons surgir la confiance. C'est-à-dire, nous acceptons que la parole d'un autre nous dise du vrai, au moins du vrai pour nous, hein, que nous acceptons comme tel, parce que ce n'est pas un pur produit de notre imagination, mais un acte de confiance posé vis-à-vis d'un autre. L'autre comme soi-même, encore Ricoeur. Alors je reviens un instant sur le fonctionnement de la science. Est-ce que il échappe totalement au processus de confiance? Absolument pas. Quand on fait de la physique ou de la biologie au lycée, le professeur fait une expérience, lit avec les outils de la science disponibles et il la fait refaire aux élèves, ils refont les mesures, ils mettent dans leur cahier d'expérience le résultat et donc le consensus est construit à partir de la démarche même de l'expérience scientifique. Donc l'élève peut adhérer en disant oui, j'ai bien construit sur ce pendule qui oscille, sur cette cellule dont je vois la coloration changer, j'ai bien construit du vrai. Si l'esprit critique, les validités de l'expérience étaient bien construites. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Je travaille en ce moment sur le changement climatique, un enjeu majeur pour l'humanité. Il est totalement hors de question que je refasse, ou quiconque de mes collègues climatologues, l'ensemble des calculs, lise l'ensemble des 3000 articles annuels qui paraissent depuis 20 ans, et qui finalement ont convaincu la communauté scientifique qu'il est vrai que, avec une marge d'incertitude, comme dans tout raisonnement scientifique, mais elle est petite, qu'il est vrai que c'est l'activité anthropogénique de production de dioxyde de carbone qui implique le réchauffement de la Terre que nous observons depuis plus de 30 ans. Il n'est pas question de le faire. Donc, pourquoi y crois-je? Et le mot croyance se retrouve ici. J'y crois parce que j'ai confiance dans le processus très complexe de validation de l'affirmation scientifique finale. Et ce processus est très largement inconnu du public en général. Il ne sait pas quelles sont les précautions de Sioux qui sont prises pour que tout résultat qui n'est pas valable, qui n'est pas vérifié, pour que toute brebis galeuse qui tente de frauder soit éjectée du dispositif. Il en reste un de temps en temps, et généralement, ça fait la une des journaux, et il est rapidement éjecté. Pourquoi la communauté scientifique, dans son ensemble, est-elle aussi attentive à maintenir la confiance? Parce que, comme il n'est pas possible à chacun de refaire des expériences en lisant un article, comme il arrive même maintenant aujourd'hui qu'un article est signé de 40 ou 50 ou 200 auteurs et qu'aucun n'a relu la totalité, mais a apporté sa brique à la conclusion finale, eh bien, sans confiance, on pourrait raconter n'importe quoi. Et ce n'est pas un enjeu de pouvoir contre pouvoir. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des enjeux de pouvoir, d'argent, de notoriété, de prix Nobel ou autre qui jouent dans la communauté scientifique comme ailleurs. Mais elle sait bien que toute faille, toute fraude avec cette règle d'or condamnerait son édifice tout entier. Car si telle courbe publiée a été manipulée par son auteur et que non seulement personne ne s'en aperçoit, mais si ça arrange d'autres de dire non, non, c'est tout à fait vrai, eh bien, n'en restera rien. Donc le mécanisme de confiance, il est validé, mais il n'est plus validé par l'interaction de personne à personne. Je crois que tu m'aimes parce que j'ai confiance dans ta parole. Il est validé par un travail collectif à très très grande échelle. Évidemment, ceux qui argumentent du relativisme des résultats scientifiques, oui, on a trouvé ça parce que c'est une collection de savants qui sont complices les uns des autres, qui cherchent leur intérêt mutuel, ou qui veulent obtenir beaucoup de crédit, ou bien qui sont influencés par telle ou telle idéologie. Donc c'est relatif, relativisme dont parfois des journalistes se font l'écho en disant mais il y a deux propos, l'un qui dit que le climat change à cause de l'homme, l'autre qui dit que c'est pas du tout vrai, mais on va leur donner une parole avec le même poids, le même temps d'antenne ou de discussion à la radio. Évidemment, ce relativisme, il est tout à fait redoutable, parce qu'il sape à la base même ce qui est le propos fondamental de cette démarche d'épistémée, de cette recherche du logos au cœur. Il sape la confiance dans la vérité telle qu'elle s'établit progressivement. Même si, et je cite Lacan, qui a une belle phrase, très juste, qui dit « La vérité, toute la dire, je n'y arrive pas, parce que c'est par là même que la vérité tient au réel. » C'est le réel voilé dont je parlais tout à l'heure. On cherche à la dire, on la dit, mais la dire tout entière, je n'y arrive pas, parce que sa nature même est d'être in fine inaccessible. Donc, revenons au croire, le sujet, que ce soit le sujet singulier dans l'amour, personne à personne, ou que ce soit le sujet collectif dans cette description du fonctionnement de la science, le sujet est au cœur du croire. Et cette question de la vérité, au fond, elle nous amène assez directement à la question de la transcendance, c'est-à-dire, est-ce que ce mystère, cette interrogation que portaient même des scientifiques, est-ce qu'il nous ouvre à un ailleurs, à un au-delà du visible, au-delà de l'apparente, et comment? Évidemment, depuis le début de l'histoire, au sens écrit du monde, c'est les religions, en particulier les monothéismes, qui ont porté cette ouverture vers la transcendance. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, successivement, des vagues successives, réformes, je pourrais aussi citer, hein, qui ont porté cette recherche vers la transcendance. Avec toujours un piège qui laisse des traces terribles, c'est que dans la mesure où certains moments de l'histoire ont voulu lier trop vite les représentations nécessairement présentes dans l'expression des textes et l'absolu d'une vérité au-delà de l'homme, écrite avec un grand V, elles se sont évidemment donné des bâtons pour se faire battre. C'est très impressionnant de voir, 5 siècles après, à quel point le procès de Galilée est utilisé dans de très nombreux débats pour montrer que la victoire, j'emploie des mots qu'on lit souvent, hein, de l'obscurantisme sur la science. Mais on fera aussi volontiers appel à l'histoire de Darwin, hein, et au combat contre sa vision de l'évolution des espèces. Hein. On retrouve dans l'islam aujourd'hui des fondamentalismes très proches, hein, et on trouve la même chose chez les créationnistes évangélistes américains. Tout ceci me semble aujourd'hui des phénomènes relativement marginaux, en tout cas au sein du christianisme, ou du catholicisme occidental, en tout cas. Mais ils n'ont pas été dans le passé, et leurs traces dans la conscience, aujourd'hui, restent extrêmement présentes. Je me souviens quand j'étais au catéchisme, j'apprenais avec étonnement, mais intérêt, que l'inhérence de la Bible, elle ne pouvait pas se tromper. Ça me paraissait toujours un peu curieux, mais comme c'était une dictée, le texte était dicté directement, il y avait une explication possible. Bon, on retrouve, évidemment, depuis, l'exégèse a fait son chemin. L'exégèse, c'est justement d'essayer de décoder ce qui a été écrit à partir des représentations et des méthodes scientifiques de l'époque. Il a fallu quand même beaucoup de combats et pas mal de victimes pour que l'exégèse arrive à l'état où elle est. Mais évidemment, dans le monde islamique, il n'y a aucune exégèse à ce jour. Et ceux qui la risquent leur vie, parfois, dans certains pays. Donc, ce chemin qui permet de prendre la distance entre la perception intérieure de la transcendance transmise à l'humanité et ses expressions collectives est un chemin difficile. on va trouver dans l'institution Église un construit, une collection de croyances hein, qu'on peut analyser, discuter, mais qui est tout de même un petit peu hétéroclite. On trouve pêle-mêle l'Immaculée Conception, beaucoup de miracles, beaucoup de croyances, au fond, que nous affirmons les unes après les autres dans le credo, au point d'ailleurs, et ça me choque toujours un petit peu, qu'au moins dans le symbole des apôtres, pas dans sa formulation Nicée, on a toute une énumération. Alors, le Père, c'est bien, le Fils, c'est bien, et puis après, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection du péché, etc. À la résurrection des morts. Une sorte d'énumération qui mériterait un regard peut-être plus attentif pour savoir où est l'essentiel qui peut être annoncé à chacun comme une entrée vers la transcendance. Je pose ça sous forme de question. Je vois simplement que, puisque la vérité est au fond au cœur de notre propos du croire, hein, qu'on a envie de croire des choses vraies, hein, on ne peut pas croire n'importe quoi, hein, que les deux expressions fortes autour de ce mot vérité dans l'Évangile sont une expression personnelle. Le Christ dit « Je suis la vérité ». Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est la vérité ? Qui dit la vérité, mais qui est la vérité ? Ça montre une distance qui installe le croire dans une relation singulière et personnelle, à la différence du savoir. Et puis cette autre phrase que je trouve admirable de Jean, hein, qui dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière », c'est-à-dire que la vérité n'est pas un donné une fois pour toutes, quelque chose qu'on peut tenir et avec lequel on peut éventuellement blesser les autres, mais c'est un processus. Et là, nous sommes d'une certaine manière envoyés à ce processus de dévoilement qui est le processus de la science. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai essayé de dire ce qu'est le savoir, de dire aussi que le croire tisse nos vies, est présent partout, que du savoir émerge, et a été dit dans l'histoire par beaucoup, une ouverture vers le transcendant, vers ce qui n'est pas démontrable, que cette ouverture est à la source, que ce soit chez les grands savants ou chez le plus humble des prophètes d'Israël, à la source d'une affirmation d'un au-delà de l'homme, que sa formulation va être très fortement pénalisée par des adhérences à des représentations qui ne font pas justice à cet espace de perplexité et à ce projet de la connaissance, et que quand ce projet se développe, comme il le fait dans nos sociétés, nous sommes tellement perplexes et questionné de tellement de côtés que notre tendance est de saisir la planche que Démocrite suppliait les dieux de lui donner, de donner-nous une planche qui nous empêche de nous noyer et qui nous évite de penser. Eh bien, je crois que nous n'avons pas le choix. Il nous faut penser. Je ne vous ai donné aucun procédé pour le faire. Merci.